Nous lirons ensemble les 7 premiers versets. Genèse chapitre 35, les 7 premiers versets. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. » Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel, et il appela ce lieu El-Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, encore une fois ce matin, nous voulons te rendre grâce, te louer, te bénir, Seigneur, pour cette parole que tu nous as laissée. Jésus nous a dit que cette parole, Seigneur, eh bien, elle était à la vérité, et cette parole, eh bien, c'est elle qui nous rendrait libres. Et Seigneur, libre de t'adorer, libre de te louer, libre de t'obéir, de t'aimer, mais aussi libre de dire non au péché, dire non à toute forme de tentation, Seigneur, pour vraiment, Seigneur, que tu puisses te réjouir de voir tes enfants qui marchent dans tes voies. Et ce matin, encore une fois, Seigneur, nous voulons que tu fouilles dans nos cœurs, que tu creuses, Seigneur, dans nos esprits, afin que s'il y a des choses qui ne t'appartiennent pas, eh bien, tu puisses les mettre en lumière, non pas nécessairement publiquement, mais dans nos cœurs, afin que nous puissions, Seigneur, si c'est le cas, te demander pardon, de nous repentir, Seigneur, et rétablir cette communion si intime que tu veux, si intime et si personnelle que tu veux avec chacun de tes enfants. Que ta parole, Seigneur, soit bénie ce matin et que nous puissions tous en profiter sans exception. Et c'est pour la gloire de Jésus-Christ que nous te le demandons. Et le peuple de Dieu dit Amen. Permettez-moi de commencer ce message en posant quelques questions. Est-ce que vous vous rappelez le jour où vous avez rencontré Dieu? Est-ce que vous vous rappelez ce moment particulier où Jésus est devenu votre sauveur? Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti lorsque Jésus vous a sauvé? Est-ce que vous vous rappelez finalement l'excitation de ces premiers jours où vous avez servi le Seigneur et que tout ce qui concernait Dieu, c'est-à-dire l'Église, la Bible, l'adoration, la prière, le témoignage vous apportait une joie que vous n'arriviez même pas à exprimer par des mots. Est-ce que vous vous rappelez jusqu'à quel point ces premiers instants de bénédiction remplissaient votre cœur de joie? Je suis certain, frères et sœurs, que vous vous en souvenez. Combien de personnes pourraient dire ce matin que tout ce qui leur reste de ces merveilleux moments du passé ne sont plus que des lointains souvenirs? Combien pourraient dire que les choses de Dieu ne les excitent tout simplement plus? Que la plupart du temps, ils n'ont pas une profonde conviction qu'ils doivent venir à l'Église et qu'ils pourraient plutôt trouver quelque chose de plus intéressant à faire à la place. Combien pourraient affirmer ce matin que la lecture de la Bible, la prière et de témoigner aux autres le nom de Jésus-Christ ne les fait plus vibrer comme autrefois? Ils préféreraient plutôt qu'on les laisse tranquilles afin de pouvoir faire ce qui leur plaît et servir Dieu à leur façon. Si c'est la situation dans laquelle vous vous trouvez ce matin, sachez que les choses ne doivent pas rester comme elles sont. Dieu a un plan pour vous, et il le montre clairement dans ces versets que nous venons de lire concernant Jacob. Dieu a appelé Jacob à revenir à Bethel, où Jacob avait rencontré le Seigneur pour la première fois. Et ce matin, j'aimerais que vous vous rappeliez tous de la première fois que vous avez rencontré le Seigneur à votre Bethel. Rappelez-vous cette première fois. Est-ce que vous avez encore cette joie débordante de cette première fois où vous avez rencontré le Seigneur à Bethel? À votre Bethel. Amen. Je me souviens que dans les premiers mois où je me suis converti, eh bien, le Seigneur me réveillait la nuit pour le louer. Je me réveillais en louant le Seigneur. J'étais rentré dans un autre monde et je louais le Seigneur. C'était magnifique. Et je me mettais à genoux et je continuais à louer le Seigneur, à prier le Seigneur. Quel moment merveilleux! Quel moment merveilleux! Et ce n'était pas que des paroles. Il y avait quelque chose à l'intérieur qui était vivant, qui bougeait. Dieu était une réalité pour moi. J'espère que ce matin, Dieu est encore une réalité pour chacun d'entre vous ce matin. La semaine dernière, nous avons vu comment Dieu avait rencontré Jacob à Bethel et comment Jacob avait été touché lorsqu'il avait vu cette échelle qui était dressée sur la terre et dont le sommet touchait au ciel. C'était une image de Jésus-Christ. Jacob avait compris que Dieu lui avait parlé. Et il va lui faire une promesse en disant ceci. Genèse chapitre 28, versets 19 à 22. « Si Dieu est avec moi et me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » C'est facile de faire des promesses au Seigneur, mais ce n'est pas nécessairement facile de les tenir. Et on va voir au chapitre 35 que Jacob avait oublié certaines promesses qu'il avait faites au Seigneur. Vous vous rappelez comment il a lutté avec l'ange de l'Éternel et qu'il en est ressorti un tout autre homme? Ce n'était plus Jacob, c'était maintenant Israël, une nouvelle créature avec le désir de se consacrer au Seigneur. Rappelez-vous sa prière, « Je ne te laisserai point partir avant que tu ne me bénisses. » Et dès lors, nous avons presque tous pensé que Jacob était maintenant fixé pour la vie. Puisqu'il possédait les deux choses essentielles à tout homme, il était sauvé, il s'était totalement consacré au Seigneur. Plus rien de mal ne pouvait lui arriver. Dites amen à ça. Pourtant, lorsque vous lisez les chapitres 33 et 34, frères et sœurs, vous découvrez que Jacob vivait des difficultés et des sérieux problèmes. Des problèmes de toutes sortes. Une de ses filles, Dina, a été violée par le fils d'un prince de Shechem. Ses deux fils, pour se venger, eh bien, ont tué la population de Shechem, tous les mâles de Shechem, en les faisant circoncire, en leur demandant de se faire circoncire. Ils étaient incapables de faire quoi que ce soit. Quand on se fait circoncire bébé, c'est une chose, mais quand on se fait circoncire adulte, c'est une autre paire de manches. Ils étaient tous immobilisés, ils ont tous assassinés. Jacob vivait de sérieux problèmes dans sa vie et dans sa famille. Et cela m'amène à vous dire que peu importe la décision que vous prenez, rien ne garantit votre dévouement et votre consécration au Seigneur tant et aussi longtemps que vous ne serez pas arrivé au ciel. Il n'y a qu'une façon de vivre une vie chrétienne, c'est de la vivre au quotidien avec le Seigneur, peu importe la sorte d'expérience que vous avez vécue dans le passé. Si vous ne gardez pas vos yeux fixés sur le Seigneur, vous allez vous éloigner de lui. C'est comme monter une côte avec une bicyclette qui n'a pas de frein. Vous avez déjà essayé ça? C'est pas facile à monter, je l'ai déjà fait quand j'étais jeune. Il ne faut pas que vous arrêtiez, hein? Parce qu'à partir du moment où vous arrêtez de pédaler, c'est bizarre, mais la bicyclette, elle descend. Vous ne pouvez pas demeurer immobile. Et c'est pourquoi Jacob a échoué. Il a arrêté de penser à l'Éternel et il s'est donc éloigné de lui. Les chapitres 33 et 34, frères et sœurs, mettent en lumière cet échec, cette frustration et cette défaite dans la vie de Jacob. Et pourtant, extérieurement parlant, eh bien, ça ne se voit pas. Ce matin, peut-être, je ne sais pas, il y a peut-être des choses qui ne vont pas dans votre vie. Extérieurement parlant, ça ne paraît pas. Vous avez tous des beaux visages, vous n'avez pas l'air trop sérieux. Donc, vous avez de l'air, il y en a qui ont des sourires, vous avez de l'air assez détendu. Mais intérieurement, frères et sœurs, est-ce que ça va? En apparence, Jacob était un homme très riche. Il a toujours voulu acquérir des choses. Il a maintenant tout ce qu'il a voulu. Et il semble que le vieux Jacob touchait, tout ce que le vieux Jacob touchait se transformait en or. Mes frères et sœurs, Jacob était perdu dans ses richesses, mais aussi perdu dans sa relation avec Dieu. Jacob s'était laissé détourner de Dieu par tout ce qu'il possédait. Et cela, non seulement l'affectait personnellement, mais ça affectait tous les membres de sa famille. Permettez-moi de vous poser une question, frères et sœurs. Est-ce que Dieu est toujours une réalité dans votre vie aujourd'hui qu'il l'était lorsque vous l'avez rencontré pour la première fois? À votre Bethel. Vous arrive-t-il de vous dire, où est le bonheur que j'ai connu lorsque j'ai rencontré le Seigneur pour la première fois? Où en suis-je rendu avec cette vision si rafraîchissante de Jésus, de sa parole? Où sont les heures paisibles que j'ai appréciées? Combien de souvenirs de ceux-ci demeurent toujours en moi, mais ont laissé place à un vide douloureux que le monde ne peut pas remplir? Est-ce que c'est ce que vous vous dites ce matin? Où est le bonheur que j'ai connu lorsque j'ai rencontré le Seigneur? Dans ce passage, Dieu appelle Jacob à revenir à l'endroit où il a reçu sa première bénédiction. Dieu appelle Jacob à revenir à cet endroit où tout a commencé pour lui. Cet endroit où les choses de Dieu sont rafraîchissantes, vivantes, passionnantes, voire même excitantes. Et c'est cette même invitation qu'il lance ce matin à quiconque s'est éloigné du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que ce passage m'enseigne aujourd'hui. Il m'enseigne que notre Dieu est le Dieu qui permet un nouveau commencement. Notre Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Et nous trouvons des exemples de cela à travers toute la Bible. Dieu avait dit à Jonas d'aller prêcher à Ninive, mais Jonas va se rebeller et il va demeurer dans un grand poisson. Il est le premier homme dans l'histoire de l'humanité à avoir fait un tour de sous-marin et à dormir sur un matelas en mousse de graisse. Mais Dieu va parler encore une fois à Jacob. Il va lui transmettre à nouveau le même message, les mêmes instructions que la première fois, celle d'aller annoncer la bonne nouvelle aux gens de Ninive. Et c'est ce qui s'est passé lorsque Jacob est revenu à son Bethel. Dieu lui a accordé une deuxième chance. Je me souviens avoir lu dans la Bible comment Samson a trahi le Seigneur. Cet homme possédait une force surnaturelle. Et non seulement il va perdre cette force lorsque Dalila va lui couper les cheveux, mais il verra aussi sa relation avec Dieu être coupée à ce moment-là, et à cause du péché, des nombreux compromis qu'il a fait dans sa vie. Pourtant, je lis que lorsque ses cheveux avaient suffisamment repoussé, il va demander à Dieu de se souvenir de lui et de lui redonner une dernière fois la force qu'il avait auparavant pour venger finalement la perte de ses deux yeux. Et Dieu va lui donner une deuxième chance. Dieu va répondre à sa prière. Samson va s'appuyer sur les colonnes du temple dédiées au dieu Dagon et celui-ci va s'effondrer. Et le texte nous dit que à ce moment-là, Samson a tué plus de monde qu'il en avait tué durant toute sa vie. Je me souviens d'avoir lu dans la Bible comment Simon-Pierre renia le Seigneur Jésus devant la servante. Et comment il jura ne pas connaître, devant les gens qui étaient présents à ce moment-là, de ne pas connaître le Seigneur Jésus. Et pourtant, ce même Pierre qui a pleuré amèrement et qui s'est repenti pour ensuite revenir vers le Seigneur, fut rempli du Saint-Esprit pour devenir un flamboyant prédicateur lors de la Pentecôte parce que Dieu a donné à Pierre une seconde chance. Et le Dieu qui a dit à Jacob, « Jacob, monte à Bethel », est le même Dieu qui vous dit aujourd'hui, « Si vous vous êtes éloigné de moi, revenez à moi, revenez, je suis le Dieu de la deuxième chance. » Il est le Dieu qui permet de faire des demi-tours. Il est le Dieu qui vous aime malgré le fait que vous ayez pris un autre chemin que le sien et que vous vous retrouvez aujourd'hui dans une situation peu réjouissante. Dieu met en évidence dans ce passage ses vérités à travers sa relation avec Jacob. Et certains d'entre vous ce matin, vous avez sûrement eu un bon début avec le Seigneur. Vous savez que Dieu, dans sa grâce, vous a sauvé. Vous avez commencé ensuite à vivre comme il le demandait. Mais quelque part, le long de votre pèlerinage avec le Seigneur, les choses ont commencé à aller mal dans votre relation. Et vous vous retrouvez aujourd'hui dans une situation que vous n'aviez jamais envisagée. Mon frère, ma sœur, si c'est votre cas ce matin, Dieu vous appelle à revenir à votre Bethel. Le sujet que j'aimerais traiter pour vous, avec vous ce matin, c'est comment un chrétien qui s'est éloigné de Dieu peut revenir à son Seigneur et être guéri. Alors, on va essayer de regarder ça rapidement ce matin. D'abord, au verset 1. Je vais enlever, si vous le permettez. Verset 1. Nous apprenons au verset 1 que Dieu a parlé à Jacob. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Bethel et habite-y. Là, tu feras un autel au Dieu qui t'est apparu. » Lorsque tu es en fuite devant ton frère Ésaü. Première chose, Jacob entend la parole de Dieu. Ce matin, la première chose dans ce lieu, dans ce message, vous entendez la parole de Dieu. Dieu appelle Jacob à revenir à l'endroit où il avait rencontré la première fois. Dieu ordonne à Jacob d'y habiter, de construire un autel. Ça faisait 20 ans que Jacob avait rencontré Dieu à Bethel pour la première fois, et Jacob s'était éloigné du Seigneur. Il avait commencé à faire des compromis dans sa vie en pratiquant l'idolâtrie. Il s'était refroidi pour les choses de Dieu. Et Dieu l'appelait maintenant à revenir à la maison. Puisque Bethel, ça veut dire quoi? La maison de Dieu. Comme Bethléem, Beth pour maison et elle pour Dieu. Maison de Dieu. Bethléem, c'est maison de pain. Bethel, c'est maison de Dieu. El, ça veut dire Elohim. C'est le singulier d'Elohim et ça veut dire Dieu. Maison de Dieu. Et le Seigneur lui rappelle de revenir là où il l'avait rencontré pour la première fois. Là où il avait reçu la bénédiction du Seigneur la première fois, dans la maison de Dieu, à Bethel. Reviens à ton Bethel, Jacob. Combien de chrétiens se trouvent dans la même situation que Jacob aujourd'hui? Les choses de Dieu sont mortes et ils démontrent par leur façon de vivre au quotidien qu'ils ont perdu leur premier amour. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, vous n'avez qu'à penser à l'Église d'Éphèse. Dans Apocalypse chapitre 2, les versets 1 à 7, tournez dans Apocalypse, chapitre 2, versets 1 à 7. Bon, ça va. Aujourd'hui, on a commencé une demi-heure plus tôt que la semaine passée. Vous devriez partir, en principe, une demi-heure plus tôt. Le Seigneur, à travers l'ange, parle à l'église d'Éphèse. Et il lui dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail et ta persévérance. Je sais même que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disaient apôtres et qui ne le sont même pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Frères et sœurs, c'est un message qui est envoyé à l'église d'Éphèse. Et si vous êtes dans cet état, si vous êtes dans cet état spirituel ce matin, Dieu a une parole pour vous. Et cette parole, c'est la même qu'il avait pour les chrétiens de l'église d'Éphèse. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Frères et sœurs, s'ils ont abandonné le Seigneur, c'est parce qu'il l'avait déjà eu. On ne peut pas abandonner quelque chose qu'on n'a jamais eu. C'est qu'il l'avait eu. Ils avaient connu le Seigneur. Ils avaient une relation intime et personnelle avec le Seigneur. Mais ils étaient tombés dans le piège des apparences de faire des œuvres. Et le Saint-Esprit, à travers l'ange, dit à l'église d'Éphèse, ce sont des œuvres qui sont mortes. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, car Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Pensez à l'endroit où le Seigneur vous a trouvé et ce qu'il a fait pour vous quand il vous a sauvé par grâce, frères et sœurs. À cause de ce que nous étions naturellement, nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 2, nous étions destinés à subir le jugement de Dieu comme les autres. Mais la bonté de Dieu est si grande et son amour pour nous est tel que, lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. Amen. Frères et sœurs, amen. Vous êtes nés de nouveau. Vous êtes des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Vous avez une nouvelle espérance. Dieu appelle Jacob, tout comme l'Église d'Éphèse, à revenir à lui. Cet appel est le même pour vous et moi. Lorsque nous nous éloignons de lui, il nous dit « revenez » et nous pouvons être assurés qu'il nous recevra et qu'il nous restaurera. Car si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en lui. Car il agit de façon juste. Il pardonnera nos fautes et nous purifiera de tout mal, dit l'apôtre Jean dans sa première épître. Le problème, c'est qu'on est tellement honteux souvent parce qu'on a fait des choses qu'on est seul, entre guillemets, à savoir, que le diable vient nous harceler, nous dire que Dieu va nous rejeter, Dieu va nous refuser, sa grâce, son pardon, si on vient devant lui. Mais c'est faux. Ça contredit toute l'épître de Jean. Ça contredit toutes les Écritures. Pensez au fils prodigue. Lorsque nous nous approchons de lui avec un cœur repentant, il s'approche de nous dit la parole. Si nous revenons à lui, il revient à nous, dit la parole. Rappelez-vous cette période où juste le fait de mentionner le nom de Jésus, frères et sœurs, était suffisant pour faire apparaître des larmes dans vos yeux. J'ai connu un vieux chrétien au Québec. À chaque fois qu'il prononçait le nom de Jésus, il pleurait. À chaque fois qu'il prononçait le nom de Jésus, il se rappelait toujours ce qu'il a fait pour lui. Moi, je me disais, il n'est pas bien ce gars-là, il a un problème, quoi. Il a besoin de prendre des médicaments. Tu sais, quand tu es jeune chrétien, il avait 50 ans de vie chrétienne et à chaque fois qu'il prononçait le nom de Jésus, on voyait les larmes couler de ses yeux. Il se rappelait toujours, il se ramenait toujours à la case départ le jour où il était perdu dans ses péchés et le jour où il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ au pied de la croix. Et il savait qu'il avait une dette immense à l'égard de son Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il savait que par reconnaissance, par gratitude, tout ce qu'il avait à faire pour le Seigneur, c'était d'y obéir, de marcher dans ses voies. Et combien il était triste, combien il pleurait lorsqu'il dérogeait à cette règle de s'éloigner quelque peu de la marche à suivre que la parole lui donnait d'exercer. Rappelez-vous, frères et sœurs, cette période où simplement quand on mentionnait le nom de Jésus, c'était suffisant pour faire apparaître des larmes dans vos yeux. Rappelez-vous cette période où le cantique « Auquel grâce hein, »,« Amazing Grace » en anglais, vous donne envie de crier votre reconnaissance au Seigneur. Rappelez-vous lorsque vous pensiez avec émotion à Jésus mourant sur la croix pour sauver votre âme et ressuscitant des morts, vous garantissant ainsi la vie éternelle. C'est là où le Seigneur veut que nous revenions ce matin. Rappelez-vous lorsque vous aimiez fréquenter l'Église, lire la Bible et rencontrer les frères et sœurs en Christ. Rappelez-vous lorsque vous étiez le premier dans votre vie et que le Seigneur obtenait le meilleur de vous-même. Voilà, il veut que vous reveniez ce matin. Le plan de Dieu pour nous, c'est de rallumer ce premier amour qui brûlait en nous pour lui. C'est de reconstruire les autels démolis dans nos vies, afin que nous lui rendions à nouveau un culte agréable et que nous le servions fidèlement. Dieu avertit les chrétiens d'Éphèse, et s'ils ne parviennent pas à raviver cette flamme qu'ils avaient autrefois et à revenir à leur premier amour pour Jésus, eh bien, la Bible est claire et l'ange leur dit, ils feront face à un châtiment. Frères et sœurs, il n'est pas question de parler ici ce matin de l'assurance ou de la perte du salut, mais de vous rappeler plutôt que vous appartenez au Seigneur et que vous choisissez de vous éloigner de lui et que vous refusez de revenir vers lui, vous ferez face à un châtiment qui est le sien, car il corrige, il reprend ceux qu'il aime, afin que nous ayons part à sa sainteté, nous dit la parole, Hébreux chapitre 12. C'est sa parole qui le dit, c'est une promesse certaine. Voici un homme qui n'a pas marché avec le Seigneur comme il aurait dû le faire durant ses 20 dernières années. Et pourtant, n'est-ce pas réjouissant, frères et sœurs, de savoir qu'il peut encore entendre la voix du Seigneur? Frères et sœurs, entendez-vous encore le Seigneur vous parler lorsque vous lisez sa parole? Je ne suis pas là pour vous condamner ce matin, simplement pour qu'on réfléchisse tous ensemble. Ce n'est pas un message pour vous ce matin, c'est un message pour vous et pour moi ce matin. Est-ce qu'on entend toujours le Seigneur nous parler lorsqu'on ouvre sa parole? Ou si c'est devenu routinier, on lit la parole parce qu'on doit la lire et non pas pour recevoir ce que Dieu a prévu pour nous durant cette journée? Est-ce que c'est encore un trésor de bénédiction pour nous, la parole, ce matin? Si oui, gloire à Dieu! Mais sinon, ce matin, si c'est votre cas, revenez à votre Bethel! Revenez à votre Bethel ce matin! Et Dieu va vous donner une grande bénédiction, comme il l'a fait pour Jacob. Jacob a quitté Bethel complètement transformé. Je suis certain qu'il n'y a rien de plus misérable dans ce monde qu'un chrétien qui s'est éloigné spirituellement du Seigneur, mais qui peut encore entendre sa voix et son appel. Combien cela doit être dur de se rappeler des bons moments passés avec le Seigneur, alors qu'on est si loin de lui maintenant. C'est sûrement ainsi qu'Adam s'est senti lorsqu'il a entendu la voix du Seigneur marchant dans le jardin, pendant que lui se cachait, parce qu'il n'avait plus aucune communion avec son Seigneur. Ça devait être terrible, terrible pour Adam de vivre cette expérience. Être dans son corps glorifié, sans péché, à partir du moment où il commet un péché, devient mortel. La transformation d'Adam. Il devait s'être regardé et dire, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis plus de même. Et nous, on n'est plus de même quand on baigne dans le péché. Non, on n'est plus le même quand on désobéit à Dieu. Et Dieu n'est plus le même non plus par rapport à nous. On le voit d'une autre façon. On est comme Adam. Hein? On est honnête, on se parle entre les quatre dieux ce matin. Hein? On est honnête. Hein? On fait comme Adam, on se cache de Dieu. Hein? Si on ne revient pas à notre Bethel, on se cache de Dieu. On a honte hein, de ce qu'on a fait. On a honte parce que le Saint-Esprit habite en nous. Et le Saint-Esprit met en lumière ce qui ne va pas. Hein? Et si ça ne marche pas avec le Saint-Esprit, on a une conscience aussi. Et la Bible, le proverbe nous dit que la conscience, c'est la lampe que Dieu a donnée à l'homme pour sonder les profondeurs de son âme. On marche avec deux, hein? Le Saint-Esprit et la conscience. La conscience, ça peut être influencée par notre nature humaine, mais pas le Saint-Esprit. Pas le Saint-Esprit, on ne pourra jamais faire du Saint-Esprit le complice de nos péchés. Et Dieu utilise le Saint-Esprit pour nous dire, reviens à ton Bethel, reviens chercher ta joie, reviens chercher ta paix, parce que je suis un Dieu, le Dieu de la deuxième chance. Je suis un Dieu qui accorde deuxième chance, troisième chance, quatrième chance, cinquième chance. Je suis le Dieu qui m'a même jusqu'à une dernière chance accordé la dernière chance. Pensez au malfaiteur sur la croix. Simplement voir ce que Dieu a fait avec le malfaiteur sur la croix, c'est suffisant pour nous faire réaliser que jamais Dieu ne rejette quiconque vient à lui. Les deux malfaiteurs, nous dit les textes évangiles, des évangiles nous disent que les deux au début se moquaient de Jésus. Les deux! Ce sont deux bandits, deux racailles, deux meurtriers. Vous pouvez vous imaginer ce qu'ils peuvent avoir lancé dans la figure de Jésus. On a quelques paroles. Ça ne doit pas être édifiant. Je pense que c'est pour ça qu'on n'en a pas trop mis. On a quand même. Hein, si tu es le Fils de Dieu, et ainsi de suite. Hein? Ouais. Et pourtant, quand il y en a un qui a dit, écoute, tais-toi parce que nous, on a ce qu'on mérite, et lui, non. Il vient de reconnaître qu'il est pécheur. Il vient de se repentir de ses péchés. Et il va bien plus loin que ça. Non seulement il croit que Jésus est son sauveur, mais il croit que Jésus est son Seigneur. Il dit, souviens-toi de moi quand tu reviendras. Il croit à la résurrection des morts et il est sur la croix. Et il croit que Jésus, le roi, est un royaume. Et là, on peut dire que c'est le Dieu de la dernière chance pour lui. Et ça devrait nous encourager, nous fortifier ce matin. Peu importe ce qu'on a fait, Dieu est le Dieu de la seconde chance. Il n'y a pas un péché que Dieu ne peut pas nous pardonner. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Même le plus petit péché que le diable essaie de salir, de noircir pour vous faire paraître quelque chose d'impardonnable, il n'y a rien que Dieu ne peut pas vous pardonner ce matin. Vous dites « Amen » à ça. Pourquoi le diable veut vous salir? Parce qu'il veut vous empêcher de recevoir les bénédictions que Dieu en réserve pour chacun de vous ce matin. Parce que le diable veut vous empêcher d'être une lumière dans ce monde des ténèbres. Parce que le diable veut vous empêcher d'être de semeur de joie, de paix, dans ce monde qui est perdu, qui est pourri, qui est corrompu. Parce que ses œuvres sont mauvaises, nous dit le Seigneur Jésus dans l'Évangile de Jean. Aux frères et sœurs, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des prêtres en Jésus-Christ. Vous êtes des héritiers du royaume. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes appelés à être des co-héritiers. Tout ce que Dieu a donné à Jésus, co-héritier, s'il vous le donne, il va régner, vous allez régner avec lui. Et le diable cherche à nous abaisser, à dire « t'es un minable, t'es un moins que rien, toi. Dieu t'aime pas. » Eh bien, c'est faux. Quand on regarde tout ce que Jacob a fait après avoir rencontré Dieu à Bethel 20 ans après, si on avait un soupçon que Dieu ne nous aime pas, Jacob, il serait disqualifié. Oui, Adam, ça ne doit pas être facile pour lui. Et on comprend pourquoi il s'est caché. Mais si c'est votre cas ce matin, vous n'avez pas besoin de continuer à vivre dans cette misère plus longtemps. Vous n'avez plus besoin de vous cacher. Vous pouvez revenir à la maison en ce moment même, parce que Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Vous pouvez revenir vers le Père, il vous recevra, il vous pardonnera, il vous restaurera, il vous bénira à nouveau. Pouvez-vous entendre sa voix qui vous appelle ce matin, frères et sœurs? Jacob l'a entendu, sa vie a pris une nouvelle direction. Non seulement il a entendu la parole de Dieu, vous entendez la parole de Dieu ce matin, mais la deuxième chose que les versets 2 à 5 nous donnent ce matin, il a tenu compte de la parole de Dieu. Vous pouvez m'entendre ce matin, vous pouvez entendre la parole de Dieu être citée à vos oreilles ce matin, mais si vous ne tenez pas compte de la parole qui est citée dans les Écritures, il n'y a rien qui va changer dans votre vie. La deuxième étape ici, c'est que Jacob, versets 2 à 5, a tenu compte de la parole de Dieu. Jacob savait que s'il devait revenir à Bethel, il devait apporter certains changements dans sa vie, et il a fait en sorte que les membres de sa famille et tous ceux qui étaient avec lui apportent certains changements dans leur vie avant même qu'ils reviennent à Bethel. Premièrement, il va faire un choix définitif. Et si vous tenez compte de la parole de Dieu ce matin, si vous êtes dans la même situation que Jacob ce matin, bien, vous devez faire un choix définitif dans votre vie. Il a fait le choix de se débarrasser de ses fausses idoles qui ont pris place dans sa vie et dans la vie de ceux qu'il aimait. Et il va montrer alors qu'il a fait un choix catégorique en leur disant « Rassemblez toutes ces idoles, nous allons les enterrer, nous allons les déposer dans la tombe du pardon de Dieu. » Et c'est ce qu'il a fait. Verset 2. Jacob dit à sa maison, à tous ceux qui étaient avec lui, « Ôtez les dieux étrangers, ceux que Rachel avait apportés. » Vous vous souvenez quelques chapitres avant, hein? C'est bizarre, c'est plus juste Jacob, c'est plus juste Rachel, hein, qui s'était assis dessus sur le chameau. C'est plus juste Rachel, hein? C'est tout le monde, hein? Le texte nous dit, c'est pas moi qui le dis, hein? Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui. Il dit pas à Rachel, amène-moi les bibelots, hein? Non. À ceux de sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui. Les fausses idoles s'étaient répandues quand on fait des compromis dans nos vies. Il dit, rassemblez-moi tout ça et on va enterrer ça. Vous vous dites peut-être ce matin, mais moi, j'ai aucune idole dans ma vie, pasteur. Après tout, on vit en Europe, on n'est pas des idolâtres. J'ai pas de faux dieux. Mais au fait, qu'est-ce qu'une idole, frères et sœurs, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'un faux dieu? C'est tout ce qui compte plus pour vous que le Dieu Tout-Puissant. C'est tout ce qui vous empêche d'aimer Dieu, de connaître Dieu et de servir Dieu. C'est tout ce qui vient se mettre entre vous et Dieu. Quelqu'un me disait, est-ce que c'est péché de regarder la télévision? Ben non, c'est pas péché. Mais ça devient péché si ça prend la place de Dieu dans ta vie. Si tu es capable de consacrer 4 heures de TV par jour, tu es capable de consacrer 4 heures de temps avec ton Seigneur, là, ça risque d'être un problème dans ta vie. Si tu es capable de regarder un match de foot pendant 3 heures, tout le mondial, pendant toute la période du mondial, et que tu n'es pas capable de consacrer le même temps au Seigneur, là, tu risques d'avoir un problème dans ta vie. Là, tu risques le foot devienne une idole dans ta vie. Là, tu risques de faire en sorte que la télévision devienne une idole dans ta vie. Là, tu risques de faire en sorte que l'ordinateur devienne une idole dans ta vie. Que le sport en général devienne une idole dans ta vie. Il est possible que pour certains, ce sont vos biens matériels qui sont devenus une idole dans vos vies. Peut-être que les plaisirs de ce monde sont devenus une idole dans votre vie. Peut-être que votre famille est devenue une idole pour vous. Je ne suis pas en train de dire que lorsque vous aimez le Seigneur, vous ne devez pas aimer votre famille. Mais Jésus-Christ doit toujours demeurer le premier. Il ne veut pas occuper une place quelconque dans notre vie, frères et sœurs. Il veut occuper la première place. Et si ce n'est pas le cas, alors, chers amis, vous êtes un idolâtre. L'idolâtrie est le premier des péchés. Jacob dit ici, « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. » Et frères et sœurs, faites simplement, permettez au Saint-Esprit de vous examiner ce matin. Et s'il y a une idole dans votre vie, faites la même prière que Jacob. « Seigneur, tu sais que je suis esclave de telle idole. Tu sais que ça, c'est le compromis que je fais dans ma vie. Ça, tu sais que cette idole-là, c'est la chose qui prend la première place que tu dois occuper dans ma vie. » Seigneur, permets-moi, comme Jacob, d'enterrer cette idole dans la tombe de ton pardon ce matin, afin que tu occupes toute la place qui te revient, Seigneur Jésus. Deuxièmement, ils se sont purifiés de tout ce qui les avait salis. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous. Ils se sont purifiés de toute souillure intérieure et extérieure. Et frères et sœurs, on ne peut pas revenir à Bethel si notre cœur est sale. Il y a un nettoyage qui doit d'abord être fait. C'est pour ça que la décision de Jacob, elle est radicale avant qu'il vienne à Bethel. Je dois éliminer tout ce qui prend la place de Dieu dans ma vie. Vous allez me dire, mais ça n'a pas de sens ce que tu nous dis là, pasteur, ce matin. Humainement parlant, ça n'a pas de sens. Mais pour ceux qui sont nés en Jésus-Christ, rien n'est impossible. Parce que tout est possible à celui qui croit. Et si vous croyez que cette idole qui vous est accrochée après les jambes, dans votre esprit ce matin depuis des années, vous êtes incapable de vous en défaire, eh bien, j'espère que vous avez la conviction qu'à la croix, Jésus-Christ est capable de vous en délivrer ce matin. Amen. Ils se sont purifiés de toutes ces souillures intérieures et extérieures. Une vie souillée empêche de rendre à Dieu l'adoration qui lui est due. Qui montera? Psaume 24, versets 3 et 5. Tournez avec moi. Psaume 24, versets 3 et 5. Ah, ça va, ce matin. Okay. Achève. Regardez ce que le psalmiste dit au verset 20, au chapitre, psaume 24, verset 3 et 5. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Écoutez bien. Qui montera à Bethel ce matin? Qui montera à Bethel ce matin? Qui peut monter à Bethel ce matin? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Il y a un nettoyage à faire avant. Celui qui ne livre pas son âme aux choses vaines, aux idoles, et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel et l'approbation de leur Dieu qui les a sauvés. Alléluia, gloire à Dieu ce matin. Je prends la décision, Seigneur, de mettre en lumière des choses, des idoles qui sont dans ma vie, qui prennent toute ta place. Et ce matin, Seigneur, je prends une décision qui est catégorique. C'est terminer les choses qui prennent ta place ce matin. Et Seigneur, donne-moi la force de te les amener devant ton trône de ta grâce et de m'en délivrer, Seigneur. Parce que je prends la décision dorénavant de dire non à ces choses-là. Et j'ai la certitude, la confiance, Seigneur, que tu vas m'accorder, parce que Seigneur, en Jésus-Christ, eh bien, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Je puis tout. Vous écoutez des chrétiens, on dit « je puis presque tout ». Non, « je puis tout », le texte biblique nous dit. Quand on ne peut pas tout par celui qui nous fortifie, c'est parce qu'on ne le veut pas. Sinon, on fait du test biblique un mensonge. Dieu menteur. Je puis tout par Jésus-Christ qui me fortifie. Si je l'ai rencontré d'une manière personnelle, s'il s'est révélé dans ma vie et qu'il a fait mourir le vieux Jacques pour en faire en créer un nouveau, je peux tout par celui qui me fortifie, dit la parole à travers l'apôtre Jacques, l'apôtre Paul. J'espère que c'est votre conviction ce matin. Ensuite de ça, troisièmement, ils ont changé de vêtements. Ôtez les yeux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous, deuxièmement, et changez de vêtements, troisièmement. Des vêtements qui étaient tachés par le péché. Des vêtements propres qui symbolisent la séparation d'avec le monde. Rappelez-vous le fils prodigue. Qu'est-ce que le père dit? apporter la plus belle robe. Apporter la plus belle robe. Pourquoi il était capable de dire ça? Parce que le fils avait pris des décisions quelques versets avant. Je vais venir voir le père de la deuxième chance, je vais venir voir mon père. Oui, le texte biblique nous dit qu'il s'est examiné. Il a commencé à se voir tel qu'il était un pécheur. Deuxième étape, il se repentit. Et troisièmement, il dit, je vais revenir à mon Bethel, je vais revenir à la maison de mon père. Parce que j'ai la conviction que le père ne me mettra pas dehors. Même s'il ne veut pas me traiter comme un fils. Je sais que les serviteurs sont encore mieux que moi aujourd'hui. Mais il vient avec un cœur repentant. Le père voit le changement dans la vie de son fils. Et il dit, apportez la plus belle robe. Enlevez les vêtements sales et souliers dans lesquels il est apparu. Mettez la plus belle robe à mon fils. Et frères et sœurs, les élus, bien souvent, c'est l'image de la robe blanche qui signifie la sainteté, la pureté en Jésus-Christ. Si nous voulons être là où le Seigneur désire que nous soyons, alors nous devons nous revêtir de la sainteté de Dieu. Ce monde est tout ce qui lui appartient doit être rejeté par celui qui veut marcher avec le Seigneur. À ceux de ça, ils ont créé une certaine distance entre eux et les choses du monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enterré ces choses afin de ne plus jamais être capables de les récupérer. Plus tard, mais pour qu'ils disparaissent à tout jamais. Frères et sœurs, ce qu'ils ont fait représente une image de la repentance. La repentance qui est un changement d'opinion, qui se manifeste par un changement de comportement et de direction dans la vie. Lorsque quelqu'un se repent, il change sa façon de penser sur ce sujet. Se repentir, ça signifie se détourner, ne plus jamais revenir. Il est possible que vous faites partie de ceux qui ont besoin de se repentir ce matin, parce qu'il y a des choses dans votre vie pour lesquelles vous avez besoin de vous repentir. Vous avez besoin de changer votre façon de penser concernant ces choses ce matin. Vous avez besoin ensuite de prendre une autre direction dans votre vie et de vous éloigner de ces choses ou ces gens, de ces choses ou de ces gens qui vous empêchent de progresser dans votre marche avec Dieu. Vous avez besoin de mettre une certaine distance entre vous, entre ces gens et entre ces choses ce matin. Non seulement Jacob entend la parole de Dieu, non seulement il tient compte de la parole de Dieu, et on va terminer avec ceci, mais Jacob a honoré l'ordre donné par le Seigneur, versets 6 et 7. Lorsque Jacob est revenu à Bethel, il a reconstruit un autel. Et honoré, c'est qu'il a obéi au Seigneur. Dieu lui dit, tu vas construire un autel. Et frères et sœurs, quand nous entendons l'appel du Seigneur et que nous lui obéissons, que nous disposons nos cœurs à vivre pour que Dieu soit glorifié en toutes choses, alors nous pouvons reconstruire les vieux autels et adorer à nouveau, reconstruire les vieux autels qui ont été démolis et adorer à nouveau le Seigneur en esprit et en vérité. Et frères et sœurs, c'est là où le Seigneur veut tous nous amener ce matin. Et c'est là où le cœur de celui qui a été racheté veut être. L'autel que Jacob a construit symbolise plusieurs choses. Et lorsque nous retournons à notre Bethel, vous avez juste besoin de vous y rendre pour la première fois et d'être sauvés. Pardon. L'autel, ça symbolise quoi? Ça symbolise aussi l'adoration de Dieu. Dieu doit être adoré par son peuple si l'on veut lui rendre un vrai culte. Cela signifie simplement que nous devons venir à un endroit où nous sommes prêts à nous humilier nous-mêmes devant lui, à confesser nos péchés, à demander son pardon et à élever son nom dans la louange. Dans la louange, merci Seigneur pour ton pardon. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu miséricordieux. Merci Seigneur parce que je peux m'appuyer sur toi. Tu es un refuge, Seigneur. Tu es un appui et un secours qui ne manque pas dans la détresse. Seigneur, je peux compter sur toi. Et si vous êtes dans un moment de détresse ce matin, Dieu lit dans vos cœurs. Et c'est ce que Dieu veut, que vous éleviez la voix devant son trône de grâce. Et que vous dites, Seigneur, je peux faire confiance en mon Dieu et en mon Sauveur. L'autel, elle parle aussi d'amour. L'autel de Jacob a offert ce qu'il avait de meilleur et pour finir, il s'est donné lui-même au Seigneur. Il a démontré qu'il aimait le Seigneur en faisant ce que le Seigneur lui avait demandé de faire. Jésus dit, si nous l'aimons, nous garderons ses commandements. Il n'y a rien comme notre obéissance au Seigneur qui démontre jusqu'à quel point nous l'aimons. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean chapitre 8, verset 31. Frères et sœurs, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est de nous rendre libres, des gens libres en Jésus-Christ. À l'hôtel, Jacob promet de servir le Seigneur. Dieu cherche des gens qui vont le servir d'une manière désintéressée, qui feront en sorte qu'il soit le premier dans leur vie, qui vont se donner entièrement à lui pour lui. Dieu demande à Jacob de construire un hôtel et rien d'autre n'aurait pu faire plaisir au Seigneur. Dieu demande une obéissance totale à sa parole. Le prophète Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et la soumission vaut mieux que la graisse, les béliers. » Jacob avait une dette de gratitude au Seigneur pour toutes les bénédictions qu'il avait déversées dans sa vie. Il a payé cette dette à l'autel et nous sommes nous aussi redevables au Seigneur. Et nous ne serons jamais capables de rembourser cette dette. Jamais. Voilà pourquoi dans nos moments de louange, toute notre gratitude, notre reconnaissance devrait monter devant le trône de la grâce de Dieu. Ce n'est pas juste de dire, Seigneur, merci de mon mal de dents, merci de m'avoir guéri mon mal de tête, merci Seigneur de m'avoir... Non, Seigneur, merci parce que j'étais perdu et tu m'as sauvé. Merci Seigneur parce que depuis toute éternité, j'étais dans tes pensées. Merci Jésus parce qu'à la croix, mon prénom était en toi. Jacques était là et tu savais qu'un jour je viendrai au monde et tu savais qu'un jour, eh bien Seigneur, je te rencontrerai. Et tu es mort pour moi. Et frères et sœurs, Christ est mort pour chacun d'entre vous. On peut le louer ce matin. Pas obligé de faire des grandes, grandes prières. Simplement ouvrir la bouche et proclamer ce qu'on vit avec Jésus-Christ. Ça suffit. Simplement ça. C'est ce que le Seigneur veut entendre. Pas du charabia. Jacob pouvait raconter n'importe quoi, Seigneur. Il était devenu matérialiste. Il avait des troupeaux, il avait ci, il avait ça, il était riche. Il y avait des idoles. Mais quand il s'est présenté à son Bethel, oh! Hey! Il s'est revu la première fois qu'il a rencontré le Seigneur. Il s'est rappelé les bénédictions, la première bénédiction qu'il a eue. Et là, on voit un Jacob qui est complètement différent. Oui, c'est plus Jacob, c'est vrai que c'est Israël. C'est merveilleux. Pensez à tout ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Pensez au peu de choses que nous avons fait pour lui en retour. Dieu ne nous oblige pas à le servir comme remboursement pour tout ce qu'il a fait pour nous. Mais ceux dont les cœurs ont été rachetés, qui aiment le Seigneur, ne peuvent s'empêcher de le servir pour marquer leur gratitude pour tout ce qu'il a fait pour eux à la croix et dans leur vie de tous les jours. Pensez, et on va terminer avec ça, pensez à Marie qui a versé un parfum de nard pur, un parfum de nard de grand prix, pardon, pour démontrer toute sa gratitude pour ce que le Seigneur Jésus avait fait. Vous pensez que Marie, quand vous lisez son histoire dans la parole, vous pensez que Marie avait les moyens de se taper un parfum de nard de grand prix? Et Jésus, qu'est-ce qu'il va dire? Elle a fait ce qu'elle a pu. Et le Seigneur nous dit la même chose aujourd'hui à chacun d'entre nous. Il connaît nos capacités physiques, spirituelles, financières et matérielles. Et il se contente de tout ce qu'on peut faire pour lui. Pas tout ce qu'on veut faire pour lui qu'on ne fait pas, mais tout ce que concrètement on peut faire pour lui. Et Jésus va se réjouir comme il a fait pour Marie. Il a fait ce qu'il a pu, elle a fait ce qu'elle a pu, vous avez fait ce que vous avez pu. Dieu n'est pas un Dieu qui nous exigeant au point de nous demander ce qu'on est incapable de faire. Mais il nous demande de faire ce qu'on peut pour lui. Et ce qu'on peut pour lui, c'est d'obéir à sa parole parce qu'on a une puissance à l'intérieur de nous qui est beaucoup plus forte que l'esprit qui est à l'extérieur de ce monde. Et cet esprit à l'intérieur de nous, nous donne la capacité d'obéir en Jésus-Christ au Seigneur, au Dieu Tout-Puissant. Dieu a changé le vieux Jacob après qu'il soit revenu à Bethel. Dieu a changé son nom de tricheur en celui d'Israël, celui qui a lutté avec Dieu. Dieu a renouvelé toutes ses promesses qu'il avait faites à Abraham et Isaac. Et elles ont pris un sens nouveau pour Jacob. Dieu a agi ainsi parce que Jacob lui a obéi et qu'il était revenu à Bethel. Je l'invite à fermer les yeux ce matin.